Vous écoutez « On lit pour vous ».
De Londres à Paris, une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir. Corinne Lequéré n'a aucun doute. L'humanité dispose déjà de tout ce qu'il faut pour réduire rapidement ses émissions de carbone. Depuis près d'une décennie, cette climatologue québécoise, une sommité dans son domaine, citée plus de 80 000 fois par ses pairs, orbite autour des hauts cercles du pouvoir, en France et au Royaume-Uni, pour accélérer l'action climatique. J'essaie d'aider les gouvernements à prendre les mesures les plus ambitieuses possibles, mais toujours dans le cadre d'un plan à long terme, explique Mme Lequéré, 59 ans, de passage au Québec ces jours-ci pour voir sa famille et recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal. Attablée dans un café de la métropole, celle qui habite en Europe depuis 1996 ne mâche pas ses mots à l'endroit du Canada. Le pays hésite trop dans la transition énergétique. Il va manquer le coche pendant que la Chine consacre 10 % de son économie aux énergies renouvelables. Le Québec fait un peu mieux, mais les progrès demeurent trop lents par rapport à des pays européens comparables, surtout dans le contexte où, depuis 2 ans, les technologies de l'électrification connaissent un essor phénoménal, souligne l'influente chercheuse. Il faut dire que Mme Lequéré est aux premières loges des gouvernements les plus dynamiques sur la scène climatique mondiale. En 2018, le président français Emmanuel Macron l'a nommé à la tête du Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique française en matière climatique. Elle l'a présidé jusqu'en 2024. Durant ces 5 années, ce comité, c'est vraiment ce qui a dominé ma pensée, explique-t-elle. Des résultats encourageants ont été obtenus. En 2023, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont chuté de 5 %. La climatologue n'adhère pas au cynisme ambiant à l'égard de la classe politique. « La plupart des décideurs politiques que j'ai rencontrés veulent bien faire », dit-elle dans un français bien québécois qui lui a déjà valu des sourires lors d'une présentation devant M. Macron et ses ministres. Pour que ses conseils résonnent aux oreilles des décideurs, elle sait comment s'y prendre. Les ministres ont besoin des fins détails. Quelle est la disponibilité des technologies? Combien ça va coûter? Qui va payer? Énumère-t-elle. De l'autre côté de la Manche, après avoir conseillé le premier ministre David Cameron, Mme Lequéré est devenue membre, en 2016, du Climate Change Committee, CCC, qui conseille le gouvernement britannique en matière d'action climatique. Là-bas, les émissions de gaz à effet de serre ont fondu de moitié depuis 1990. L'économie de demain au Royaume-Uni, c'est une économie décarbonée et électrique, indique avec enthousiasme la citoyenne britannique qui habite Norfolk, où elle est professeure à l'Université d'East Anglia. Le CCC, la référence mondiale pour ce type de comité, est doté d'une 40aine d'analystes. Peu importe le parti au pouvoir, Downing Street a toujours adopté les plafonds d'émissions recommandés par le comité. Le carbone et l'océan. Corinne Lequéré a grandi à Gatineau, auprès d'un père originaire de France et d'une mère québécoise. Sa famille, indépendantiste, passait beaucoup de temps en nature, à profiter des lacs et de la forêt. Jeune adulte, Corinne envisageait de devenir enseignante et d'éducation physique, mais ratant la date d'inscription d'une journée, elle s'est plutôt retrouvée en physique à l'Université de Montréal, ce qui allait donner son envol à sa formation scientifique. « La physique, c'est le pilier de ma manière de penser », juge-t-elle aujourd'hui, reconnaissante envers son alma mater. Ayant attrapé la piqûre de la science, elle a ensuite poursuivi des études en sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill, achevée en 1992. Puis, elle a travaillé comme assistante de recherche à l'Université de Princeton, auprès de Jorge Sarmiento, un géant de l'océanographie. Mme Lequéré a développé dans son laboratoire un modèle servant à calculer l'absorption de carbone par les océans. Elle a ensuite décroché son doctorat à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris en 1999. Au début des années 2000, elle a découvert que l'océan Austral, qui ceinture l'Antarctique, perdait de son potentiel à absorber du carbone de l'air à cause des changements climatiques. Les vents, fortifiés par le réchauffement, accélère la remontée des eaux profondes riches en carbone, ce qui rend la surface moins apte à avaler le CO2 atmosphérique. Un cercle vicieux. Heureusement, selon les données les plus récentes, le rétablissement de la couche d'ozone renverse une partie de cet inquiétant phénomène. En entrevue, Mme Le Quéré se montre sérieuse, mais chaleureuse. Elle n'est pas pessimiste. Elle constate que les pires scénarios climatiques, les 5 degrés Celsius de réchauffement envisagés au début de sa carrière, sont désormais improbables. Une vingtaine de pays industrialisés diminuent leurs émissions, tout en ayant une économie vigoureuse. Il demeure que la planète n'est pas à l'abri de certains points de basculement, qui pourraient entraîner une réorganisation abrupte et irréversible d'un aspect du climat mondial. « Ça m'inquiète beaucoup », avoue-t-elle. Une transition de la forêt boréale vers un régime de feu très rapide est l'un des basculements redoutés. Pendant que l'humanité s'efforce de profondément réduire ses émissions, il est aussi absolument essentiel qu'elle commence à capter et à séquestrer du carbone atmosphérique, croit Mme Le Quéré. La reforestation peut jouer un rôle, mais ne pourra jamais être une solution universelle. Les arbres plantés peuvent brûler et ils occupent de l'espace au détriment de l'agriculture. D'autres options, qui reposent sur le stockage du CO2 atmosphérique dans le sous-sol et dans l'océan, sont aujourd'hui en plein développement. Dans quelques décennies, elles pourraient compenser les émissions de l'aviation et de l'agriculture, difficile à faire descendre à zéro, indique la scientifique. Certains militants écologistes, technophobes, grincent des dents en entendant de telles propositions. Mme Le Quéré, qui se considère comme très pragmatique, cherche l'équilibre. Elle soutient tout autant la sobriété énergétique que les véhicules électriques. « Il y a beaucoup de militantisme pour le climat qui n'est pas toujours utile », soutient-elle. « Ces gens ont de bonnes idées, mais ce ne sont pas des idées qu'on peut mettre en œuvre. » Elle croit que le rôle d'un gouvernement, c'est de mobiliser les acteurs pour que les investissements se fassent au bon moment dans l'industrie. Au Canada, on ne pourrait pas dire demain qu'on arrête d'exploiter le pétrole. Ça ne passerait pas. L'économie en est trop dépendante. Le pays doit planifier à long terme l'évolution de son économie, en s'assurant que les gens concernés par les transformations ont un avenir. La sortie du pétrole ne peut être improvisée, elle doit être planifiée. Et tant mieux si l'industrie pétrogazière essaie de réduire ses émissions en cours de chemin. Mais il faut arrêter de parler de pétrole vert, prévient-elle. Vers la carboneutralité familiale. Tout le poids de l'action climatique ne repose pas sur les épaules de l'individu. Un système entier est en cause. Mais l'individu ne peut pas non plus se défiler devant ses responsabilités, selon Mme Le Quéré. À un moment donné, il faut y faire face. La climatologue franco-canado-britannique trouve qu'il y a trop de culpabilité dans l'air, mais aussi trop d'échappatoires. Personnellement, elle veut que ses bottines suivent ses babines. Pour ce faire, la scientifique se consacre à un projet commun, rendre sa famille carboneutre. Déjà, elle se rend au travail à vélo, conduit un véhicule électrique et ne mange presque pas de viande. Après avoir installé des panneaux solaires sur son toit, elle projette de se procurer une thermopompe électrique pour chauffer sa résidence. Cela dit, le poste le plus important de son bilan carbone est sans conteste l'avion qu'elle prend pour aller voir sa famille au Québec et sa fille à New York. « C'est mon gros point faible », admet-elle. Pour équilibrer son bilan, elle a acheté en 2024 une terre agricole abandonnée non loin de chez elle, à Norfolk, qu'elle est en train de transformer en forêt. Sur 3 hectares, elle a planté 1 000 arbres. Érables, chênes, ormes, cerisiers, pommiers, poiriers. Je dois dire que c'est un plus gros projet que ce que j'imaginais. Mais c'est le fun. C'est très, très, très valorisant de planter des arbres. Maintenant, on attend qu'ils poussent. C'était « De Londres à Paris », une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir.
Les nations autochtones du Canada mettent en garde leurs membres qui iraient aux États-Unis. Un texte de Alessia Passafium de la presse canadienne paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir. L'Assemblée des Premières Nations met en garde les Autochtones qui veulent traverser la frontière américaine contre les opérations de contrôle de l'immigration et de la détention de certains citoyens autochtones américains. La chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Népinac, a confirmé qu'au moins un membre des Premières Nations avait récemment eu une mauvaise expérience avec l'Agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes, mieux connue sous le nom d'ICE, et que cette personne était depuis revenue au Canada. Madame Woodhouse-Népinac a déclaré à la presse canadienne que l'APN ne divulguerait pas le nom de cette personne. Cette affaire a incité le groupe autochtone à publier une déclaration avertissant les membres des Premières Nations de s'assurer qu'ils disposent des documents et pièces d'identité appropriés lorsqu'ils franchissent la frontière. Ces actions constituent une violation de nos droits inhérents et une violation du traité Jay, qui garantit le libre passage des membres des Premières Nations à la frontière, a déclaré Mme Woodhouse-Népinac. Nous appelons l'administration du président américain Donald Trump à respecter pleinement le droit des Premières Nations de traverser la frontière sans harcèlement ni entrave injustifiée. Les Premières Nations, en tant que peuple autochtone, vivaient ici, sur ces terres, de manière harmonieuse. Nous avons partagé ces terres et ce n'est pas pour que des gens viennent ici nous dire comment nous devons les traverser, a-t-elle fait valoir. Le chef régional de l'Ontario, Abraham Benedict, a confirmé vendredi matin qu'il était également au courant de l'arrestation par l'ICE d'un membre des Premières Nations. Il a été renvoyé au Canada et l'ICE a saisi son certificat de statut d'Indien, a déclaré M. Benedict, qui est coprésident de la Jay Treaty Alliance, un organisme représentant les gouvernements tribaux et les communautés des Premières Nations des deux côtés de la frontière. Il a eu de la chance de ne pas avoir eu d'autres interactions négatives avec eux et de ne pas avoir été placé dans le système de déportation. La dernière chose que nous voulons, c'est qu'un de nos citoyens des Premières Nations se retrouve dans un centre de détention et doive passer par tout ce processus fastidieux qui peut être très intrusif et, franchement, inutile. La presse canadienne a contacté le bureau de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Léna Diab, pour obtenir ses commentaires. Avertissement. La Première Nation, Kacheechewan, dans le nord de l'Ontario, qui a dû être évacuée plus tôt ce mois-ci à la suite de la défaillance des réseaux d'aqueducs et d'égouts, a publié un message sur les médias sociaux demandant aux résidents évacués vers Niagara Falls, en Ontario, de s'abstenir de franchir la frontière vers Buffalo, dans l'État de New York. Pour la sécurité des personnes évacuées vers Niagara Falls, la Première Nation Kacheechewan a adopté une motion ordonnant à ses résidents de rester du côté canadien de la frontière pendant cette période, sur ordre du chef et du conseil, a mentionné la Première Nation. Cette décision est motivée par le contexte politique actuel et le renforcement des contrôles aux États-Unis, a-t-elle ajouté. La Première Nation Mississauga a également mis en garde ses membres contre le franchissement de la frontière, évoquant la récente détention de personnes autochtones par les services de l'immigration et des douanes des États-Unis. Plus tôt cette année, trois membres de la tribu Oglala Sioux ont été interpellés dans un campement de sans-abri par des agents de l'ICE au Minnesota. Des représentants élus de la Nation Navajo avaient indiqué en 2025 que des membres de leur tribu en Arizona et au Nouveau-Mexique avaient signalé avoir été arrêtés et détenus par des agents de l'ICE. En novembre 2025, une membre de la communauté indienne Salt River Pima Maricopa en Arizona, arrêtée dans l'Iowa, devait être expulsée avant que l'erreur ne soit corrigée et qu'elle ne soit libérée. Le même mois, Ellen Miles, membre des tribus confédérées de la réserve indienne d'Umatilla dans l'Oregon et actrice connue pour ses rôles dans Bienvenue en Alaska, Northern Exposure et The Last of Us a indiqué avoir été interpellé par des agents de l'ICE dans l'État de Washington qui lui ont affirmé que sa carte d'identité tribale semblait fausse. Le chef et le conseil de la Première Nation de Mississauga condamnent fermement ces actions. Les membres qui se rendent aux États-Unis sont priés de prendre des précautions supplémentaires et de s'assurer que leurs papiers d'identité sont à jour, a écrit la Première Nation de Mississauga, en Ontario, sur les réseaux sociaux. L'ICE n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction. Plusieurs autres Premières Nations ont publié des avertissements similaires, notamment les six nations de la rivière Grande, près de Hamilton, en Ontario, et la Première Nation de Garden River, près de Sault-Sainte-Marie. Le territoire Mohawk de Saint-Régis, qui s'étend sur les frontières de l'Ontario, du Québec et de l'État de New York, a conseillé à ses membres de toujours avoir leurs papiers d'identité sur eux et d'appeler la police tribale en cas de contact avec ICE. Une traversée de la frontière plus ou moins simple. Pour le grand chef du conseil Mohawk de Kanawake, Cody Diabo, qui est également coprésident de l'Alliance frontalière du traité de Jay et membre du caucus iroquois, il est important que les Autochtones soient bien informés et munis de papiers d'identité valides lorsqu'ils traversent la frontière. Le traité de Jay, signé en 1794 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, visait à garantir la libre circulation des peuples autochtones à la frontière. Le Canada ne reconnaît pas ce traité, contrairement aux États-Unis. Ainsi, les membres des Premières Nations du Canada ayant au moins 50% de sang autochtone peuvent vivre et travailler aux États-Unis avec leur carte de statut des Premières Nations et une lettre détaillant leur histoire familiale. Les Canadiens non autochtones, quant à eux, doivent présenter leur passeport au point de passage frontalier et suivre une procédure d'immigration différente. Selon M. Diabo, les craintes accrues suscitées par les actions agressives de ICE compromettent des relations de longue date, antérieures à la fondation des deux pays. « Je suppose que nous sommes victimes de profilage racial parce que nous avons la peau et les cheveux plus foncés. Il est donc plus facile de nous repérer dans la foule et de dire « Je pense que c'est un immigrant illégal », a avancé le chef autochtone québécois, interrogé sur les actions d'ICE contre les Autochtones. Le paysage géopolitique est en pleine mutation, c'est certain. Nous devons nous adapter, défendre nos droits et faire pression là où c'est nécessaire, mais en toute sécurité, sans nous mettre en danger, a-t-il ajouté. L'Alliance du traité de Jay encourage les membres des Premières Nations qui traversent la frontière américaine à s'assurer d'avoir sur eux leur lettre de filiation familiale, leur carte de statut, leur acte de naissance complet et une pièce d'identité officielle avec photo. De l'autre côté de la frontière, les membres des tribus américaines sont encouragés à se déplacer avec leur carte d'identité tribale, une pièce d'identité ou un permis de conduire délivré par leur État ou un passeport américain. C'était « Les nations autochtones du Canada mettent en garde leurs membres qui iraient aux États-Unis », un texte de Alessia Passafium de la presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir.
Trouver le goût de la cuisine locale et familiale québécoise. Un texte de Caroline Montpetit paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. On y mangeait des poissons d'eau douce du Québec, perche chaude, dorée, qui abondent dans la région du lac Saint-Pierre, mais qu'on ne retrouve plus dans nos assiettes. Il y avait 250 pêcheurs autrefois dans la région du lac Saint-Pierre, il n'y en a plus que deux, relate-t-il. On se passait la recette de la soupe à la gourgane, typique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec bouillon de viande et orge. Et M. Lambert nous apprend que l'huile de tournesol est une invention des Iroquois d'Amérique du Nord. Curieusement, c'est au retour d'un séjour d'études de philosophie en France qu'il a redécouvert le goût de la cuisine familiale québécoise. Je redécouvrais le goût de notre cuisine. C'est en allant ailleurs que l'on s'aperçoit de ce qu'on a de différent. On peut dire que la réimmersion a été complète. Après avoir tenu une auberge et un restaurant, la Maison de la Rivière, en bordure de la baie des AA, Michel Lambert s'est lancé dans la rédaction d'une série de 5 tomes sur l'histoire de la cuisine familiale du Québec, parue aux éditions Gide. Plus récemment, il signait le beau livre « L'érable et la perdrix, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments » en 2021, avec Elisabeth Cardin aux éditions Cardinal. La soupe de Marguerite Bourgeois. Ce qui l'intéresse, c'est la cuisine des chaumières, celle que cuisinaient nos grands-mères à base de produits régionaux. Si lui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa famille provient de la région de la Naudière. Et c'est d'elle que viendrait la recette de la soupe Lambert, un bouillon issu d'une pièce de bœuf qu'on faisait bouillir longtemps avec de l'oignon, qui nous arriverait directement de Nouvelle-France, selon ses sources, et que Marguerite Bourgeois aurait servi jadis aux filles du roi. Marguerite Bourgeois enseignait la cuisine aux filles du roi qui venaient de France pour se marier. Les filles du roi savaient coudre, mais elles ne savaient pas cuisiner parce qu'en France, elles mangeaient dans des cafétérias. La cuisine à laquelle Michel Lambert s'intéresse est peu servie dans les restaurants québécois. Elle a graduellement disparu des mémoires à partir des années 50, avec l'américanisation de la société québécoise et aussi avec le courant des cuisines du monde et de l'alimentation végétarienne. La soupe y occupait une place prépondérante. En France, autrefois, la soupe c'était le repas principal, relève-t-il. En Gaspésie, comme sur la côte nord, on appelle quiode la soupe de poisson de coq qu'on cuisine avec du lait, des pommes de terre et des herbes. La quiode ou la chiode, ça vient du mot « chaudière », raconte-t-il, évoquant la prononciation normande du mot. Ça a fini par donner le mot « chowder » en anglais. La quiode, qui se faisait évidemment avec de la morue, fraîche ou salée, du temps où elle abondait dans le golfe du Saint-Laurent. Michel Lambert relève en effet que les crustacés, crevettes, homards et pétoncles ont longtemps été considérés comme de la nourriture de pauvres en Gaspésie. « On jetait les crevettes parce que c'était de la nourriture de pauvres », dit-il. Les marins qui accompagnaient Jacques Cartier disaient qu'ils avaient ramassé du homard quand ils sont arrivés en Gaspésie. Ils se sont mis à manger du homard, mais c'était anecdotique. C'est entre autres lorsque la morue est venue à manquer que les pêcheurs désœuvrés se sont tournés notamment vers les homards, aidés en cela par de meilleurs modes de conservation et des interventions gouvernementales. Autre grand disparu de l'alimentation quotidienne des Québécois, les poissons d'eau douce. Brochets, dorés, achigans, masquinongés, barbotes, qui abondent dans les lacs du Québec, notamment au Grand Lac Saint-Pierre. Ces poissons, généralement absents des gros marchés d'alimentation, ont pourtant connu leurs heures de gloire dans les assiettes il n'y a pas si longtemps. Jusqu'au début du XXe siècle, le lac Saint-Pierre était un grand fournisseur de poissons d'eau douce, au point que le train embarquait tous les jours une cargaison de poissons frais du lac Saint-Pierre pour les amener à Montréal, à Ottawa et même jusqu'à Toronto. Dans les îles de Sorel, c'est le gibier qui a d'abord donné son nom à la fameuse gibelotte. La gibelotte, c'est un ragoût de gibier, raconte Michel Lambert. Le mot gibier, au XVIIe siècle, c'était tout ce qui est sauvagine, canard, oie. Au XIXe siècle, on partait de Montréal pour aller se promener dans les îles de Sorel à cheval et on allait manger chez Berthe Beauchemin, au chenal du Moine. Elle recevait chez elle et faisait de la gibelotte. Mais en 1916, une loi est passée au Canada interdisant de chasser et de servir du gibier. Alors, Berthe Beauchemin a remplacé le gibier par du poisson local, de la barbotte, dans sa gibelotte. Retrouver les fournisseurs locaux. Or, aujourd'hui, ça n'est pas dans les grands marchés d'alimentation IGA ou Métro, dont les intérêts ne sont pas locaux, que l'on retrouve les poissons d'eau douce du Québec. Ces marchés suivent leur propre logique industrielle et souhaitent faire affaire avec de gros fournisseurs. Ce sont eux qui contrôlent l'alimentation, qui fournissent les aliments d'un peu partout dans le monde. Là, ils commencent à se préoccuper de la nourriture locale parce qu'il commence à y avoir une révolte de la part des gens qui veulent manger local, remarque Michel Lambert. Pour trouver des poissons d'eau douce locaux, il faut aller dans les poissonneries, rappelle-t-il, voire leur passer une commande pour qu'elles demandent à un pêcheur d'aller en chercher. Pour payer moins cher les produits locaux, c'est vers les producteurs eux-mêmes qu'il faut se tourner, quitte à aller les voir à la campagne. Manger local en hiver au Québec, cela pose des défis. Les modes de conservation de nos ancêtres et des autochtones, c'était de saler, vinaigrer, sécher, fumer ou congeler. On habite le Nord. Si on veut manger des produits frais en hiver, il faut les faire venir d'ailleurs à coups de frais incroyables et de pollution mondiale, relève-t-il. Il aime par ailleurs citer les serres toundra de Normandin, dans sa région natale, où on produit des concombres en serre à longueur d'année, en récupérant la chaleur d'une usine de transformation du bois. Ils fournissent tous les IGA du Québec, dit-il. Il faut aussi faire preuve de créativité. Pour remplacer l'acidité du citron avec le poisson, par exemple, on peut utiliser un sirop d'atoka comme le faisaient les autochtones, suggère-t-il. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui s'intéressent à la cuisine locale et à son histoire. Les jeunes de 17 à 30 ans sont ceux qui m'interrogent le plus. Ils sont fiers de leurs racines. Ils découvrent l'exotisme à côté de chez eux, conclut Michel Lambert. Des plats québécois mémorables. Si vous connaissez une famille de pêcheurs dans la région de Salaberry de Valleyfield, vous aurez peut-être la chance de goûter au fish monaghan. Il s'agit d'un filet de perche chaude, frit dans du beurre, servi dans un pain à hot dog avec une garniture d'oignons et des rondelles de tomates. La région est également connue pour les grillades de Valleyfield, des tranches de flanc de porc non fumé et pour son mélange d'épices, de poivre et d'ail. La région de Rouyn-Noranda a accueilli beaucoup d'immigrants d'Europe de l'Est. Ceux qui y sont restés ont popularisé des charcuteries dont la fameuse kielbasa, un saucisson de porc qu'on mange aussi en soupe avec du lait et du chou. Au Témiscamingue, une bonne partie de la vie des travailleurs se déroulait sur des bateaux qui transportaient le bois couché sur le lac qui a donné son nom à la région. Dans le bateau-restaurant qui nourrissait les ouvriers, on cuisinait des soupes faites avec des poissons locaux ou de la volaille sauvage, de la perdrix par exemple, dans lesquelles on trempait de longues pâtes alimentaires. C'est devenu une spécialité de la région, dit Michel Lambert. L'anguille, très abondante dans le fleuve Saint-Laurent, entre Lévis et Kamouraska, était un poisson si prisé en Nouvelle-France que c'était devenu une monnaie d'échange, raconte-t-il. On pouvait apporter nos anguilles au marché de Québec pour les échanger contre de la farine, par exemple. Les stocks d'anguilles ont chuté au Québec dans les années 60 avec la construction de la route qui longe le fleuve vers l'île d'Orléans. Mais le poisson demeure très prisé en Asie et en Allemagne. On associe peu la région du Saguenay au saumon. Pourtant, Michel Lambert garde de Sainte-Rose-du-Nord une recette mémorable. Le saumon poché dans du lait, auquel on ajoute de la farine et du persil de mer, qu'on ramasse au bord de la grève. Les pâtes que l'on mange aujourd'hui portent généralement des noms italiens. Pourtant, on faisait en Nouvelle-France des pâtes alimentaires qu'on roulait au rouleau et qu'on coupait en fines lanières. Michel Lambert a relevé au Québec plusieurs noms différents désignant ces pâtes de fabrication artisanale. Dans la région de Charlevoix, on appelait ça des catalognes, dit-il. Dans la région de l'Outaouais, on appelait ça des rallonges. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on appelait ça du riz de pâte. Mais ce sont les Anglais qui ont importé ici les grands-pères. On en faisait des galettes à la cuillère, puis on les mettait sur un ragoût ou dans un sirop. En Normandie, on faisait la même chose, mais on appelait ça des échaudés. C'était « Retrouver le goût de la cuisine locale et familiale québécoise », un texte de Caroline Montpetit, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.